nous débutons par le journal de Catherine Dutu, par exemple. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Sans surprise, le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu hier dès le premier tour de la présidentielle. Un nouveau mandat de 5 ans au pouvoir renforcé. Le chef de l'État est venu à bout de ses opposants lors d'élections présidentielles et législatives âprement discutées. Les pro-Erdogan sont à la fête, l'opposition conteste les résultats, vous l'entendrez.
Et puis, toujours pas de consensus en Europe sur la question migratoire. Le mini-sommet européen d'hier à Bruxelles n'a pas débouché sur un communiqué commun. La France et l'Allemagne appellent à des accords entre plusieurs pays volontaires face aux défis migratoires.
Et pendant ce temps, le bras de fer en Méditerranée continue entre les ONG humanitaires et le gouvernement italien. Près de 2000 migrants ont été secourus ces derniers jours le long des côtes andalouses. Les sages sont-ils sous influence? C'est la question soulevée par deux associations dans une enquête sur le lobbying économique, notamment auprès du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. À l'heure de la montée des tensions protectionnistes, Édouard Philippe cherche à parler d'une même voix avec la Chine, où le Premier ministre est en déplacement. Comment faire lorsque les échanges sont déséquilibrés? C'est ce que se demandera Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une quinzaine de minutes, sécurité routière, la baisse de la vitesse à 80 km/h, quelles peuvent en être les conséquences? On posera la question à Philippe Chrétien, qui est délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques.
Il règne sur la Turquie depuis 15 ans et rempile pour un nouveau mandat de 5 ans. Recep Tayyip Erdogan n'a pas attendu les résultats officiels pour revendiquer hier soir sa victoire personnelle à l'élection présidentielle en Turquie et celle de son parti, l'AKP, aux élections législatives. Scrutin anticipé d'un an, le président sortant, Erdogan, crédité de 52,5% des voix, loin devant Muharrem İnce, le chef de file de l'opposition et du Parti républicain du peuple, le CHP. Carton plein donc pour le président turc au pouvoir renforcé, on va y revenir, pour la plus grande joie de ses partisans. Reportage de Géraldine Allo dans le quartier de Kasımpaşa à Istanbul, là où Recep Tayyip Erdogan a grandi.
Sur la place principale de Kasımpaşa, des femmes en transe chantent à la gloire de Recep Tayyip Erdogan. C'est notre père, c'est notre patrie, disent-elles. Sous l'œil des caméras, les sympathisants de l'AKP rivalisent de superlatifs pour saluer la réélection du président turc.
C'est magnifique, je suis sur un nuage. Rien ne peut me rendre plus heureux que la réélection de notre président. S'il n'avait pas été élu, le pays aurait plongé dans le chaos. Nous avons confiance en lui et en lui seul. Vous, les Européens, vous ne pouvez pas comprendre. Si on l'aime autant, c'est qu'il est toujours du côté des opprimés. Et quand il s'adresse au peuple, il nous parle d'égal à égal.
Cette dévotion irrationnelle, on la retrouve aussi chez Erdal, un garagiste de 45 ans.
C'est le leader du monde musulman, c'est notre calife. Moi j'ai grandi ici, dans le même quartier que lui. Quelque part, j'ai grandi dans ses mains.
Alors que les partisans d'Erdogan exultent, l'opposition parle de fraude, Erdal balaie les accusations d'un revers de la main.
Non, il n'y a pas eu de fraude. Dans tous les bureaux de vote, il y avait des observateurs de tous les partis politiques.
Tard dans la soirée, des militants de l'AKP ont sillonné les quartiers pro-opposition. On les entendait dire « Notre président est réélu. Cette nuit, vous ne dormirez pas ».
Géraldine Allo à Istanbul le disait à l'instant, l'opposition conteste les résultats. Recep Tayyip Erdogan n'a pas obtenu la majorité absolue au premier tour, affirme le CHP, parti kémaliste sociodémocrate, crédité de 23% des voix, selon des résultats encore provisoires. Le HDP, formation pro-kurde, obtiendrait 11% dans ses élections législatives. La participation à ce scrutin et à la présidentielle atteindrait 87% selon la télévision publique, élection où les partis d'opposition et des ONG avait déployé 500 000 d'observateurs. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour Catherine.
Au vu des résultats de la présidentielle et des législatives et de la réforme constitutionnelle également, le pouvoir est un peu plus concentré ce matin dans les mains du président Erdogan.
Oui, Recep Tayyip Erdogan est cette fois bien assis dans le fauteuil de l'hyper-président qu'il a toujours rêvé d'être, une position entérinée donc par la réforme constitutionnelle de l'année dernière. Jusqu'au vote d'hier soir, en effet, il n'occupait qu'une fonction protocolaire officiellement sur le papier. Dans les faits, et depuis la mise en œuvre de l'état d'urgence suite à la tentative de coup d'état de juillet 2016, il gouverne déjà pratiquement seul. Aujourd'hui, l'état d'urgence peut bien être levé. Erdogan a d'ailleurs promis que ce serait le cas s'il était élu. La totalité du pouvoir exécutif est désormais concentrée entre ses mains et les contre-pouvoirs traditionnels en démocratie, législatif et judiciaire, ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils ont été. La justice a été très largement purgée de tout élément suspect, notamment les magistrats réputés ou soupçonnés être proches du prédicateur Fethullah Gulen, accusé d'avoir fomenté le coup d'état de 2016. Quant au Parlement, le parti d'Erdogan, l'AKP, vient d'en ravir près de la moitié des 600 sièges, 299 selon les dernières projections en sièges des résultats électoraux de la législative. Alors ce n'est pas tout à fait une majorité, un siège près pour le parti d'Erdogan, mais qu'importe à vrai dire, avec son allié d'extrême droite, le MHP, auquel une cinquantaine de sièges devraient être dévolus, Erdogan pourra aussi contrôler, voire diriger le vote parlementaire, car ses nouveaux habits d'hyper-président lui permettent aussi de rester président d'un parti politique. Président donc du premier parti à la Chambre, des institutions exécutives de la République et contrôlant complètement le système judiciaire, Recep Tayyip Erdogan est bien aujourd'hui seul à la tête du pays.
Éric Biegala, merci pour ces précisions. À noter encore, une sénatrice et deux militants communistes français ont été arrêtés quelques heures hier dans l'est de la Turquie, où ils étaient venus observer les élections à l'invitation d'un parti pro-kurde. Des raids meurtriers en Syrie. 5 civils ont été tués hier et 2 hôpitaux endommagés dans le sud du pays, dans la province de Deraa, où le régime de Bachar al-Assad fait planer la menace d'une offensive contre les insurgés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a imputé ces raids meurtriers à l'aviation russe alliée indéfectible du régime de Damas. Pas de consensus trouvé hier entre les 16 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui étaient réunis à Bruxelles. 5 heures de réunion donc hier pour préparer le sommet européen de jeudi et de vendredi prochain sur la politique migratoire. Les dissensions continuent de persister, Pierre Benazé.
Ce mini-sommet sur les migrants n'a pas débouché sur une conclusion commune des 16 pays participants, ce n'était pas prévu. En revanche, de l'avis de plusieurs chefs de gouvernement, comme Angela Merkel ou l'Espagnol Pedro Sanchez, chacun semble avoir fait part de bonne volonté, ce qui laisse peut-être augurer des débats plus sereins lors du sommet de jeudi et vendredi. Il reste que les lignes de tension entre Européens sont inchangées, même si le président du Conseil italien s'est dit satisfait d'avoir à nouveau appelé à la solidarité des autres pays, l'Allemagne et la France continuent à préconiser le retour des migrants égaillés en Europe vers le pays par lequel ils sont entrés dans l'UE. Emmanuel Macron.
Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un défi qui est lié à la pression politique dans certains États membres et à ce qu'on appelle les migrations secondaires au sein de l'Union européenne. Pour celles et ceux qui sont rentrés dans un pays, qui ont demandé l'asile et puis qui quittent et vont dans un autre pays. Et le fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment efficaces pour raccompagner dans leur pays d'origine des femmes et des hommes qui n'ont pas vocation à avoir l'asile. Certains essaient d'instrumentaliser la situation de l'Europe pour créer une tension politique et jouer avec les peurs.
La situation politique interne de l'Italie, de l'Autriche ou de la Hongrie continue à compliquer les négociations européennes. En revanche, l'idée de mieux surveiller les frontières ou de demander l'aide de pays non européens semble rencontrer les faveurs de la plupart.
La question migratoire aux États-Unis, plus de 500 enfants de migrants ont été réunis avec leurs familles, mais 2000 autres restent toujours séparés de leurs proches, le flou régnant sur le calendrier et les modalités d'éventuelles retrouvailles malgré la polémique suscitée autour de la politique de séparation des migrants de Donald Trump.
7h08 sur France Culture, c'est la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a salué hier l'interpellation de 10 personnes soupçonnées d'avoir préparé des actions violentes contre des musulmans.
10 membres présumés d'un groupuscule d'extrême droite interpellés samedi soir par la DGSI, le renseignement intérieur. 10 personnes placées en garde à vue, on y revient dans le journal de 7h30. Les sages sont-ils sous influence? C'est la question soulevée par deux associations, les Amis de la Terre et l'Observatoire des multinationales, qui signent un rapport d'enquête intitulé « Le lobbying auprès du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État », s'appuyant notamment sur la loi Hulot sur les hydrocarbures, modifiée après l'avis des sages. Les deux association dénonce un lobbying économique qui s'exerce donc sur le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, toujours selon ces associations, via des contributions extérieures, parfois opaques. Catherine Pétillon.
Dans quelle mesure les milieux économiques influencent-ils le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel? Ils le font en tout cas en toute opacité, dénonce dans ce rapport l'association Les Amis de la Terre et l'Observatoire des multinationales. Ils s'appuient notamment sur le cas de la loi Hulot sur les hydrocarbures, vidée de sa substance, écrivent-ils. Le rapport décortique un lobbying peu connu, y compris des parlementaires. Si la régulation des conflits d'intérêts a avancé ces dernières années, les deux institutions y échappent en partie, alors même qu'elles jouent un rôle souvent décisif dans les législations. Juliette Renaud est chargée de campagne sur la régulation des multinationales pour l'association Les Amis de la Terre.
Nos attentes, c'est qu'il y ait plus de transparence qui soit faite, c'est-à-dire qu'on sache les auteurs et le contenu des contributions qui sont transmises au Conseil d'État ou au Conseil constitutionnel, et aussi, bien sûr, qu'il y ait un encadrement des conflits d'intérêts. On a la loi Sapin 2 qui a créé le registre des représentants d'intérêts. Donc maintenant, lorsqu'on est une organisation ou une personne qui tente d'influer des décisions publiques, on doit déclarer quand on a des rencontres ou quand on envoie des éléments à des parlementaires, à des ministères, à des membres de cabinet. Mais par contre, le Conseil d'État et le Conseil du Constitutionnel échappent au champ de cette loi, donc on ne sait encore une fois rien sur ce qui s'y passe.
Les associations réclament plus de transparence sur les textes examinés par les deux institutions, la publication systématique de leurs avis, ainsi que davantage de prévention des conflits d'intérêts. Pour mieux encadrer la procédure de constitutionnalité et le rôle des contributions extérieures dans les décisions, les Amis de la Terre ont par ailleurs saisi le Conseil constitutionnel d'une demande formelle d'adoption d'un règlement intérieur.
Il claque la porte des réunions avec Matignon. Le président nationaliste de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, a annoncé hier qu'il refusait de rencontrer de nouveau le Premier ministre Édouard Philippe le 2 juillet prochain pour conclure un cycle de réunions sur l'avenir de la Corse. Jean-Guy Talamoni dénonce, je cite, un mépris du gouvernement. Ils ont écrit une lettre à Édouard Philippe. 175 médecins qui exercent à l'hôpital ou en libéral alertent sur une mise en danger de la vie d'autrui à cause d'un manque de moyens, disent-ils, impossible de remplir leur mission de service public. Cette lettre fait suite à un autre courrier resté sans réponse depuis septembre dernier. Ces médecins, qui disent représenter plus d'un millier de praticiens dans toute la France, espèrent aujourd'hui être entendus, Sarah Maquet.
L'initiative de la lettre vient, comme en septembre dernier, des médecins hospitaliers d'Auvergne-Rhône-Alpes, région de France avec le plus grand nombre d'hôpitaux jugés en situation d'endettement excessif par la Cour des comptes. Bruno Caron est psychiatre à Sainte-Grève en Isère. Il a signé les deux lettres, indigné par la situation des urgences.
C'est absolument l'enfer. Les gens, ils sont baignent dans leur pipi, dans leur... aberrant, quoi. Vous avez été formé pour traiter les gens au mieux, et vous pouvez pas, parce qu'il y a une urgence qui est ailleurs, et je dois laisser des gens comme ça. C'est pas possible, quoi. On tape sur les gens, comme cette régulatrice du SAMU, là, dans l'affaire Strasbourg. On a beau jeu de désigner des gens, sinon on dénonce, c'est un système.
Un système que le gouvernement souhaite revoir. En février dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a ainsi annoncé le lancement d'une réforme de l'ensemble du système de santé, annonce en trompe-l'œil pour les signataires de la lettre qui dénonce une absence de concertation. Bruno Caron.
On vous dit le cadre, de toute façon, le taux directeur ne changera pas. Les projets qui sont en cours depuis plusieurs années, qui sont les mégastructures, groupement hospitalier de territoire, c'est-à-dire que vous regroupez 10-15 hôpitaux, c'est avec une bureaucratie terrifiante. Mais on vous dit, voilà, qu'on va continuer à faire pareil, mais on veut bien discuter avec vous. Ça ne s'appelle pas une discussion, ça.
Et les signataires de la lettre espèrent pouvoir rencontrer au plus vite Édouard Philippe, au moment même où le gouvernement souhaite faire des économies sur les dépenses de personnel des hôpitaux publics. Prévision, moins 1,2 milliard d'euros sur 5 ans.